bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs. Au Sénégal, le report de la présidentielle par décret du président Macky Sall et son ajournement au 15 décembre par le Parlement interrogent les constitutionnalistes. L'alliance de députés a aussi voté le maintien du président à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur, alors que son mandat arrive à expiration le 2 avril. Cette crise est née de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur des juges du Conseil constitutionnel chargés de valider les candidatures. Alors que faire pour garantir la séparation des pouvoirs? Comment s'assurer de l'indépendance d'une cour constitutionnelle sur les questions politiques, entre autres? Nos invités sont Danielle Darlan, qui est ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, et Théodore Olo, ancien président de la Haute Cour de justice et de la Cour constitutionnelle du Bénin. Je ne sais pas si nous avons déjà nos deux invités en ligne. Nous les avons. Alors, merci beaucoup, professeur Danielle Darlan et professeur Théodore Olo d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Danielle Darlan, le monde entier, je crois, le sait, vous êtes rendu célèbre en 2002, vous avez été forcé à la retraite en octobre 2022 par décret en tant qu'universitaire, donc en République centrafricaine, puis vous avez été démise de vos fonctions 2 semaines après par le président Faustin Archange Touadéra. C'était environ un mois après que la Cour constitutionnelle a invalidé un décret créant un comité chargé de rédiger donc une nouvelle constitution. Alors ça fait beaucoup de décrets tout ça. On va commencer par là. Comment éviter ce genre de situation finalement, cette mésaventure qui vous est arrivée et ces décrets présidentiels finalement pour tout ce qui agit contre la constitution et les règles de droit? Est-ce que nous avons encore...
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Oui.
On vous écoute. Oui.
Comment éviter ce genre de situation? Je pense que je dis comment éviter ce genre de situation. Il faut seulement respecter l'indépendance de la justice, parce que la Cour constitutionnelle fait partie de l'ordre juridictionnel. Et à partir du moment où les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours, eh bien il faut que tout le monde s'y plie. Or, malheureusement, parfois ce n'est pas le cas, et on se trouve dans ce genre de situation.
Est-ce qu'on a encore Danielle Darlan avec nous? On ne l'entend plus.
Oui.
Oui, continuez, on vous écoute, continuez.
Je vous ai répondu, oui.
Voilà, merci beaucoup. Donc, très bien. Très bien. On va tout à l'heure écouter donc. On va tout à l'heure donc écouter Théodore Olo, mais avant, écoutons Oumi Regina Sambou, qui est journaliste au Sénégal.
Pour garantir la séparation du pouvoir, on se base sur les recommandations des assises nationales que l'on peut considérer comme l'un des consensus les plus forts et les plus larges de notre histoire politique au Sénégal. Elles ont été validées et consolidées par la Commission nationale de réforme des institutions, CNRI, instaurée par le régime de Macky Sall. Les assises nationales prônent une nouvelle gouvernance institutionnelle, un repositionnement du Parlement comme acteur institutionnel majeur placé au centre d'impulsion de la vie politique, et on a évoquer la question d'une justice plus indépendante assortie de mécanismes de garantie et que cette justice indépendante soit accessible aux citoyens. Elle doit être garantie par un régime juridique adéquat qui encourage et renforce l'indépendance d'esprit des magistrats et sanctionne la forfaiture. Nous avons un conseil constitutionnel et parmi les recommandations des assises nationales, ce conseil doit être transformé en cour constitutionnelle dotée de pouvoirs réels et des compétences requises pour veiller au respect de tous les droits constitutionnels et à la constitution des lois. La Cour doit être compétente pour le contentieux des élections nationales et des référendums. Ses membres sont choisis parmi les personnalités connues pour leur rigueur, leur expertise et leur connaissance des problèmes politiques, culturels et sociaux du pays. C'était des engagements que Macky Sall, en tant qu'opposant, s'était promis de mettre en place une fois qu'il est arrivé au pouvoir, mais on a vu qu'il les a plutôt, après avoir renforcé avec la CNRI, les a jetés au calendrier grec, et aujourd'hui on voit ce qu'il nous propose. Et je pense pense la réflexion que nous devons mener, c'est comment faire en sorte d'avoir des institutions plus fortes pour ne plus être confrontées à ce cas de figure. Parce que l'hyper-présidentialisme, c'est aujourd'hui qu'on peut se rendre compte du mal qu'il cause à nos populations dans des pays comme les nôtres au Sénégal.
Voilà, c'était la journaliste sénégalaise Oumi Regina Sambou. Docteur Théodore Olo, alors d'abord une question un peu pointue, mais puisque nous parlons de séparation des pouvoirs, donc d'intégrité et d'indépendance de chaque pouvoir, le Parlement qui crée une commission d'enquête sur des juges de la Cour constitutionnelle, selon vous, est-ce une mesure à caractère plutôt politique, hein, dans le cas en question le Sénégal, ou qui se justifierait effectivement par la manière dont a été gérée la validation et non-validation des dossiers de candidature?
Oui. Je voudrais vous préciser, madame, que ce n'est pas docteur Théodore Olo, c'est professeur Théodore Olo. Je crois qu'il y a le principe de la séparation du pouvoir. Et dans nos constitutions, en tout cas, ce qui concerne le Bénin, le magistrat, le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas être jugé par le Parlement. Il y a la Cour suprême et les magistrats avec une certaine autorisation qui doivent intervenir dans le respect de la séparation des pouvoirs. L'élément qu'il faudrait également souligner, si nous observons certaines dérives en Afrique, c'est que les gouvernants et certains gouvernés aussi n'ont pas une culture politique ni une culture démocratique. Ils ne s'approprient pas le texte de la Constitution. Nous sommes dans la conception d'un président qui est omnipotent, alors qu'il y a l'équilibre des pouvoirs. Je veux vous rappeler également qu'il y a une présomption d'innocence. Est-ce qu'on peut, sur la base de soupçons, déjà prendre des sanctions, interrompre un processus électoral qui devait permettre de respecter la durée du mandat du président de la République au Sénégal? Lequel mandat, laquelle durée ne peut pas être augmentée conformément à la Constitution? Donc il y a là un problème de droit qui se pose et je ne pense pas que ce soit simplement sur des sommes soupçons que le président de la République doit interrompre le processus électoral, ce qui lui permet d'aller non pas au 15 décembre pour la fin de son mandat, parce que le 15 décembre, c'est le processus électoral. Il y aura maintenant la proclamation des résultats, ce qui va l'amener pratiquement au mois de février 2025. Qu'est-ce qui nous dit qu'entre-temps, il n'y aura pas un souci qui l'amènerait sans raison à dire qu'il y a une situation exceptionnelle? La Cour constitutionnelle du Sénégal doit être en mesure d'apprécier la validité de ce décret d'abrogation du processus de la convocation du corps électoral. Est-ce que les conditions d'une situation de crise sont effectivement réunies? Je crois que dans d'autres pays, la Cour se serait saisie de cette question et sa décision aurait été respectée. Sinon, c'est l'opinion publique qui allait faire pression sur le chef de l'État pour l'amener à respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. En tout cas, telle est la tradition au Bénin. Il est rare qu'un président de la République, quel que soit sa puissance, ne respecte pas une décision de la Cour constitutionnelle.
Merci beaucoup, professeur Théodore Olo. On va revenir donc après vers professeur Daniel Darlan. Écoutons d'abord un auditeur qui est à Ouagadougou, c'est Charles Bazema.
Lorsqu'un juge constitutionnel accepte de se sacrifier, comme l'a fait la juge centrafricaine qui a été mise à la retraite forcée, comme ça s'est passé même dans mon pays, au Burkina Faso, quand Blaise Compaoré était là, le juge Nibier, ils ont retrouvé son corps. Je crois qu'ils ne sont pas tous corrompus. Il y a des gens déterminés pour défendre les lois. Mais malheureusement, en Afrique, nous connaissons tous la chanson, la corruption, népotisme, tout ce qui va contre la bonne gouvernance. Mais les seules personnes qui peuvent faire respecter les lois dans leur propre pays, je crois que c'est les citoyens. Parce que nous avons vu au Burkina Faso Blaise passer par l'Assemblée nationale pour modifier la constitution. Mais quand on ne peut pas dire non, vous avez vu que Blaise est parti. Mais s'il s'agit de ses élus, des parlements ou bien de ses nommés des juges constitutionnels, ils n'ont rien parce que ils sont à la merci du pouvoir en place. Et c'est dommage. On ne peut pas jurer sur une constitution en violant cette constitution. L'Afrique ne peut jamais se développer dans cette manière-là. On ne peut jamais être heureux, nous, les Africains, parce que nous avons à la tête de nos institutions des gens qui s'en foutent de nous.
Alors voilà un constat assez sévère, Daniel Darlan, vous avez entendu, on a parlé de vous, et comme le disait tout à l'heure donc oui. Théodore Olo, hein, le cas sénégalais, la date constitutionnelle du 2 avril pour que l'actuel président remette le pouvoir à son prédécesseur, selon les nouveaux développements, ne serait donc pas respecté. Alors comment cela devrait-il se faire si on dépasse la date pour une raison ou une autre?
La question s'adresse à Madame Darlan, je suppose.
À qui? Oui.
Les deux, Madame Darlan.
D'accord. Ok. Moi, je voudrais déjà revenir un petit peu sur ce qu'a dit le professeur Holo.
Allez-y.
Je pense que quelles que soient les raisons invoquées par le chef de l'exécutif, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir unilatéralement de pouvoir décider arrêter comme ça le processus électoral. Donc le fond du problème est là. Il n'en a pas le pouvoir. Et ensuite, l'Assemblée nationale a aussi voté une loi constitutionnelle qui est inconstitutionnelle. Donc maintenant, la parole devrait revenir au Conseil constitutionnel. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà ce que je voudrais préciser. Alors, comment ça va se passer après, si la date est passée, moi, je pense que la date du 2 avril qui marque le 2 avril 2024 marque la fin du mandat. La fin du mandat du président Macky Sall. À partir de là, il n'est plus président de la République. Suivant les textes.
Est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir, par exemple, un intérimaire?
Mais écoutez, moi, je pense qu'il y a deux solutions possibles dans ce genre de cas. Soit on provoque une sorte de concertation nationale pour arriver à un consensus national pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reporte les élections et sous quelles modalités on les reporte? Soit, eh bien, si dans la Constitution il y a un intérimaire, et en principe il y a un intérimaire, eh bien, l'intérimaire prend les rênes du pouvoir et organise les élections dans les délais qui sont prévus par la Constitution. Voilà ce qu'il faut faire quand on essaye de rester dans les textes et dans, disons, une sorte d'entente nationale.
Alors, Théodore Holo, vous voulez aussi répondre rapidement à cette question?
Je réponds à cette question en disant tout simplement que le coup d'État se définit comme la conquête ou la conservation du pouvoir en violation de la Constitution. Quand les militaires le font, on parle de coup d'État militaire. Ils utilisent la force des armes, alors que le pouvoir doit provenir de la volonté du peuple souverain. Lorsqu'un chef d'État le fait, il commet un coup d'État, qu'on appelle peut-être institutionnel ou civil. Il y a des règles qui sont prévues pour ça, aussi bien dans chaque pays qu'au niveau de la communauté qui est la CEDEAO. Par exemple, au Bénin, en cas de coup d'État, il y a la résistance de la population pour faire échec au coup d'État. C'est écrit dans notre constitution. Si une telle disposition existe, il appartient à la population de s'approprier de cette exigence. Parce que le président est élu par le peuple pour exercer un mandat pour un temps donné, mais pas pour le conserver indéfiniment. Sinon, le protest serait trop bon pour le président de s'éterniser au pouvoir. Alors que nous avons refusé la présidence à vie désormais dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, dans le cas d'Espagne, le mandat finit le 2 avril. Dans des pays organisés à partir du 2 avril, il n'a aucune légitimité pour donner des instructions aux forces de l'ordre, à l'armée ou aux fonctionnaires. Il doit simplement se retirer.
Alors, à ce propos, professeur Holo, vous avez, il me semble, encore une autre cour de justice au Bénin. Écoutons Joëlle Billet, qui est congolaise, elle est politicienne et communicante.
Lorsque vous parlez de ce qui se passe au Sénégal, moi j'appelle ça une concentration de pouvoir. Et quand on parle de concentration de pouvoir, ça veut justement dire qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Et de ce fait, bien sûr, c'est une mise à mort de la démocratie. La Constitution est le texte sacré, celui qu'on doit en aucun cas toucher. C'est le seul et meilleur moyen de pouvoir respecter la séparation des pouvoirs. Lorsque chaque pouvoir, qu'il soit législatif, qu'il soit exécutif, qu'il soit un pouvoir judiciaire, celui censé interpréter et apporter justement la mesure qui soit lorsque les lois sont respectées ou pas du tout, si c'est ce pouvoir judiciaire qui se permet aujourd'hui de se montrer partisan, ça prouve bien qu'il y a une très grosse difficulté difficultés. Alors, les mesures pour arriver à résoudre tout ça, c'est apporter un maximum d'informations, de formations et moraliser le plus possible la classe politique. Une classe politique qui est au fait des abus qui peuvent malheureusement transformer négativement une société sera une classe politique apte et encline à travailler en faveur du respect des textes et du respect des lois. Donc plus on la forme, cette classe politique, dès l'entrée des différents partisans dans les états-majors, c'est en ce moment-là qu'on arrive à trouver justement une classe politique aguerrie, digne de pouvoir conduire le pays, l'État, vers ses idéaux.
Voilà, c'était la politicienne congolaise Joëlle Bilet. On écoute tout de suite un auditeur, c'est Fernandez Toyou. Il est à Sokodé au Togo.
Je crois que le président Macky Sall a tiré la démocratie sénégalaise vers le bas. En Afrique, le pouvoir est personnalisé. En Afrique de l'Ouest, plus particulièrement. On ne sait pas les institutions qui étaient habilitées à organiser les élections, ceux qui étaient habilités à valider les candidats et autres. Et leur rôle, c'est quoi? Je ne sais pas si l'Assemblée nationale a aussi une telle prérogative à faire reporter les élections dans un pays comme le Sénégal. Mais tout ça, là, ça relève vraiment de l'imaginaire. Bon, que faire pour garantir la séparation des pouvoirs? Bon, moi, je dis que la séparation du pouvoir ici doit passer par le fait que Macky Sall laisse la main libre à ceux-là qui doivent faire le travail de le faire. C'est tout. Il va falloir qu'on mette dans la Constitution une clause qui oblige les chefs d'État à ne pas toucher à certains articles, hein, et qui oblige les chefs d'État à quitter le pouvoir sans aucun souci. Une clause suivie des éventuelles sanctions pour essayer de dissuader les gens à faire de telles choses pareilles. C'était Fernandez Toyou depuis Sokodé au Togo.
Alors, Théodore Olo, hein, en tant que constitutionnaliste, hein, vous avez entendu Fernandez Toyou. Alors moi, je vous poserai finalement cette question. Doit-on réviser la Constitution finalement pour affermir, hein, la séparation des pouvoirs et pour éviter, comme l'a dit Fernandez Toyou, la personnalisation du pouvoir?
Je pense que cette disposition existe dans la Constitution, la limitation des mandats, et en cas de parjure, le président de la République au Bénin doit être traduit devant la Haute Cour de justice. Vous savez que le président de la RCA, Tonera, a prêté serment sur la Constitution et est sur la disposition de la Constitution qu'il ne faudrait pas toucher à la limitation des mandats. Il a touché à la limitation des mandats en adoptant une nouvelle Constitution. La Cour constitutionnelle a réagi en disant que cela était contraire à la Constitution. Est-ce que l'opinion publique a soutenu bec et ongles son pays, son peuple, son droit, son statut, qui est la Constitution, en défendant la Cour constitutionnelle? D'où je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité des hommes et de la culture démocratique. Il existe simplement 4 cas dans lesquels on peut adopter une nouvelle Constitution. La naissance d'un nouvel État ou une sécession, ça a été le cas par exemple du Soudan du Sud, où quand les colonies francophones d'Afrique sont devenues indépendantes, ils ont eu leur Constitution, on élabore une nouvelle Constitution. Lorsqu'il y a une révolution, l'idée de droit qui inspire la Constitution ayant changé, il y a nécessairement une nouvelle Constitution. Lorsqu'il y a un coup d'État, et c'est le cas d'espèce, on peut adopter une nouvelle Constitution, et depuis, avec les conférences nationales souveraines, comme c'est le nouveau consensus, il y a une nouvelle Constitution. Un président ne peut pas se lever en cours d'exercice pour dire « cette Constitution ne me plaît pas, je vais adopter une Constitution qui correspond à ma vision ». Alors que la Constitution, pour moi, n'est pas un habit sur mesure, c'est un prêt-à-porter. Il fait avec. Que ça le gêne ou pas, il fait avec. Vous prenez le cas de la Guinée. Il a dirigé son pays pendant 10 ans sur la base d'une Constitution adoptée en 2000. En 2010. Il n'a pas trouvé qu'il y a des soucis sur la Constitution. C'est vers la fin de son mandat, son deuxième et dernier mandat, qu'il trouve qu'il faut adopter une nouvelle Constitution. Mais vous avez vu la résistance du peuple sénégalais. Malheureusement, cette résistance ne s'est pas traduite par un consensus pour avoir une nouvelle constitution à travers une conférence nationale, mais pas un coup d'État. Mais au moins, cette résistance a fragilisé le président de la République. Mais quand les citoyens se taisent en ne sachant pas qu'il s'agit de leur liberté, le président peut rester éternellement au pouvoir. Je pense que la limitation des pouvoirs n'est plus inscrite dans la nouvelle constitution et adoptée en RCA. D'où l'utilité de la culture démocratique. Parce que nous n'est pas démocrate. Ce qui fait que quand vous prenez les pays et l'Allemagne fédérale, qui n'avaient pas une culture démocratique,
oui.
Alors, la République
de Weimar. Oui, professeur, je vais être obligé de vous arrêter là, parce qu'on a encore des personnes à écouter, notamment Hortense Caveau.
Je vous en prie.
Voilà, Hortense Caveau.
Mon amphithéâtre me manque alors.
Hortense Caveau Maliro, donc, qui est politicienne et militante des droits humains en République démocratique du Congo, à Goma très exactement.
On doit vraiment démarquer les trois pouvoirs-là, législatif, exécutif et judiciaire. Si on arrivait à faire chacun ce qui les concerne son travail, je pense qu'il n'y a personne qui va s'interagir dans un autre pouvoir. C'est comme un exemple en RD Congo. Vous voyez que la population a déjà, par exemple, élu un député. Les députés, c'est déjà les pouvoirs législatifs. Mais vous allez voir, quand il y a les nominations de ministres, on le met comme ministre. Maintenant, le système, là, comme il est déjà ministre, il devient maintenant dans l'exécutif. Et maintenant, c'est son suppléant qui prend encore sa place au niveau de législatif. Le peuple n'a pas élu le suppléant de candidat. Et c'est ça qui fait qu'il chevauche déjà dans les pouvoirs. Qu'est-ce que vous voulez que ça puisse rapporter au niveau de ceux qui vous ont élus pour que vous puissiez parler à leur faveur, parler pour leur amélioration des conditions de vie et tout ça. Et de même pour la justice. Parce que si déjà l'appareil judiciaire est politisé, rien ne va marcher. Et je pense qu'il faut aider le pays à laisser les pouvoirs vraiment séparés pour que, au niveau de chaque pouvoir, chacun a ses attributions et qu'il puisse vraiment faire en sorte que ses attributions soient respectées et qu'il y ait les résultats. Et ça, ça va beaucoup aider l'Afrique.
Voilà, c'était Hortense Caveau Maliro. Écoutons à présent tout de suite, toujours en RDC, Alpha Wambuya.
Je pense que pour garantir la séparation des pouvoirs, il faut d'abord que les différents animateurs de certaines institutions comprennent ce que signifie la séparation des pouvoirs. Parce que ce sont eux qui nous mettent parfois dans la confusion. Et aussi, il y a la mauvaise foi des hommes politiques. Parce que ce sont eux qui les investissent. Et une fois investis, je pense qu'ils sont redevables à eux. Alors, si l'on veut s'assurer de l'indépendance d'une Cour constitutionnelle sur les questions politiques, si jamais les choix des membres de la Cour constitutionnelle venaient, je ne sais pas, de la société civile, soit du peuple, dans ce cadre-là, je pense qu'on devait avoir le temps de parler de l'indépendance. Mais aussi longtemps que c'est...
Voilà, c'était Alpha Wambuya. Tout de suite, on écoute une autre Congolaise, Nicole Ngamboué.
Moi, je dirais que c'est le respect de la Constitution qui garantit la séparation du pouvoir. Selon l'article de la Déclaration des droits de l'homme, toute société dont le droit et la séparation du pouvoir n'est pas assurée n'a point de constitution. Or, nous savons que le Sénégal a une constitution, donc il suffit tout simplement de renforcer le respect sur toute l'étendue. Mais puisqu'il y a toujours les ennemis de la démocratie et de la paix qui travaillent pour l'intérêt personnel, ils font des manipulations pour causer des troubles, de la sécurité et de la paix au pays et profiter de cette situation pour imposer leur volonté avec le non-respect de la Constitution.
Voilà, c'était Nicole Ngamboué. On écoute rapidement Jeannette Kalogil. Elle est ivoirienne.
Je pense que l'une des solutions, d'abord, il faut réviser la Constitution et les lois pour renforcer explicitement l'indépendance de la Cour constitutionnelle et la séparation des pouvoirs entre les branches exécutives, législatives et judiciaires. Alors, cette révision vise à introduire et accorder un rôle important à la société civile, afin que l'action de celle-ci ne soit pas ponctuelle, mais continue, sinon systématique. Il s'agit d'établir pour moi...
Voilà, c'était Jeannette Caleguil. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Donc, je suis vraiment désolée, Théodore Holo, professeur Théodore Holo, professeur Daniel Darlan. Je vous rappelle que tous les deux, vous avez été ancien président de cour constitutionnelle dans vos pays respectifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Max Koyaweda. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et très bon courage.